Le journal, Romain Bercher, bonsoir.
Bonsoir Olivia, bonsoir à tous. L'Autriche, l'Italie et désormais Londres, l'Europe se reconfine petit à petit pour les fêtes de fin d'année. En France, malgré la reprise de l'épidémie, le réveillon de Noël est exempté de couvre-feu. Gestes barrières et masques s'inviteront au repas de famille. Alors pour éviter une propagation incontrôlable, mais surtout cartographier le virus, des campagnes massives de dépistage ont été mises en place depuis une semaine. Ce soir, premier bilan à Charleville. Mézières dans les Ardennes. Dans ce combat contre le coronavirus, la Suède opère un revirement presque à 360 degrés. Le port du masque est désormais recommandé, ce qui n'était pas le cas depuis le début de la crise sanitaire. Et puis on se dirige peut-être vers un réchauffement diplomatique entre l'Europe et la Turquie. Ce n'est pas gagné depuis des manœuvres turques en Méditerranée orientale ces derniers mois, mais le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, assure qu'il veut ouvrir une nouvelle page avec l'Union européenne. Explication à la fin de ce journal. D'habitude festif et familial, ce Noël 2020 préoccupe Santé publique France. Tous les chiffres le montrent. Là, en France, la circulation du virus reste très élevée. Plus de 15 000 nouveaux cas détectés hier, contre 18 000 jeudi. Les chiffres d'aujourd'hui devraient être communiqués d'ici une heure. En tout cas, ces chiffres fluctuent de jour en jour, mais restent bloqués à un haut niveau. Le nombre de tests pratiqués en France augmente, lui aussi. Dans plusieurs villes, des campagnes massives de dépistages sont lancés. Avant Roubaix et Saint-Étienne le mois prochain, c'est le cas en ce moment au Havre et à Charleville-Mézières. Et dans les Ardennes, les 25 000 habitants espérés d'ici samedi prochain dans les centres de tests semblent difficilement atteignables. Le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, reste tout de même optimiste, même si pour l'instant, on est bien loin du compte avec seulement 3 700 participants depuis lundi.
C'est effectivement une dynamique qui est encourageante parce que hier on avait par exemple 1160 tests contre 600 avant-hier et donc on est en progression, mais on est sur les 5 premiers jours, il y en a encore 7 autres à venir et on a surtout on s'approche surtout des fêtes et de ce moment où on pense que nos concitoyens vont avoir envie de se tester avant de retrouver les leurs.
Olivier Véran avait précisé lui-même, le ministre de la Santé, que les gens qui étaient testés, qui étaient donc testés négatifs, qui pouvaient être soulagés, il ne fallait pas qu'ils prennent ça, je le cite, comme un totem d'immunité.
Alors, bien sûr, mais je crois qu'il faut aussi que les pouvoirs publics aient un discours clair sur les tests. Aujourd'hui, on rappelle l'importance de se tester, puis toutes les limites à chaque qui existent et que les gens ont compris. Mais avec donc un message qui finalement est un petit peu brouillé, et j'ai peur que le discours national sur les limites du test l'emporte parfois sur l'intérêt de se tester. Or là, vraiment, si compte tenu du nombre de personnes qui sont asymptomatiques, qui portent le virus sans le savoir et qui peuvent donc contaminer à leur insu ce qu'ils aiment, eh bien je crois que passer se tester avant Noël ou avant le jour de l'an, c'est vraiment tout simplement un réflexe fraternel d'amour pour les siens.
Le maire de Charleville-Mézières au micro de Matteo Mastracci. Lui s'est fait tester jeudi après avoir ressenti des symptômes du coronavirus, un test positif. C'est Emmanuel Macron, un malade pas comme les autres, sans doute le plus célèbre de France. Le président de la République à l'isolement, à la Lanterne, résidence officielle à Versailles, promettait un bulletin de santé quotidien. Le dernier, celui du jour, est rassurant. C'est le médecin de la présidence qui le dit. Les symptômes sont toujours les mêmes et l'état de santé d'Emmanuel Macron est stable. Isolement ne veut pas dire vacances pour le chef de l'État. Emmanuel Macron assure continuer à suivre les dossiers urgents. La France qui a fait le choix de déconfiner avant les fêtes et de garder le couvre-feu, sauf pour le réveillon de Noël. En face, ou plutôt à côté, une grande partie de l'Europe se referme sur elle-même pour casser la seconde vague de Covid et surtout éviter la troisième. C'est le cas de l'Italie, confinement strict dès lundi et pour 2 semaines. Ce soir, le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce un reconfinement pour tout le sud de l'Angleterre, dont la capitale, Londres, puisqu'une nouvelle souche plus contagieuse du virus fait exploser le nombre de cas. Depuis le début de cette crise, on le constate, il est difficile de trouver une stratégie unique qui soit payante pour tout le monde, même si le modèle suédois a longtemps été vanté. Là-bas, pas de confinement au printemps et un port du masque non recommandé par l'autorité suédoise de santé. Sauf que, petite révolution, les mesures se font plus dures, notamment Frédéric Faux, sur la question du masque.
Dans une conférence de presse, le Premier ministre Stefan Löfven a annoncé que le port du masque était maintenant recommandé. Il ne s'agit toujours que d'une recommandation, comme souvent en Suède. Elle ne concernera que les transports en commun à certaines heures et les modalités précises seront annoncées dans les jours qui viennent. C'est donc un petit pas vers le masque, mais aussi un complet retournement envers le discours de l'autorité suédoise de santé depuis le début de l'épidémie, qui n'a jamais recommandé le port du masque, sauf à l'hôpital. C'est une semaine noire pour les autorités suédoises qui ont dû encaisser le désaveu du roi, qui a estimé que la gestion de l'épidémie avait été un échec, ainsi que la publication d'un rapport au vitriol sur les soins apportés aux personnes âgées. Sans oublier un bilan de 8000 morts et un taux de mortalité 10 fois plus élevé que chez les voisins finlandais ou norvégiens.
Frédéric Faux, le correspondant de France Culture à Stockholm. C'est l'une des répercussions de l'affaire Epstein en France. L'ancien agent de mannequin Jean-Luc Brunel a été mis en examen pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Les victimes sont mineures et majeures. Jean-Luc Brunel est également soupçonné d'avoir organisé le transport et l'hébergement de jeunes femmes pour le compte de Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires américain qui était incarcéré pour abus sexuels sur mineurs et qui s'est suicidé en prison l'été dernier. Dans l'enquête sur l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, c'était le 25 septembre dernier où 2 personnes avaient été blessées. 4 jeunes Pakistanais ont été mis en examen et incarcérés hier. Lors du lieu, ils auraient été en contact avec l'assaillant.
Et oui, la justice les soupçonne d'avoir été au courant du projet d'attaque et même d'avoir pu l'influencer en partageant l'idéologie de l'assaillant. Il est actuellement incarcéré à la prison de la Santé. Les 4 hommes mis en examen le sont pour association de malfaiteurs terroristes. Ils ont été placés en détention provisoire hier pour 3 d'entre eux et dès mercredi pour le 4e. Ils sont âgés de 17 à 21 ans, tous interpellés lundi dernier et présentés à la justice antiterroriste. 2 ont été arrêtés en Gironde, 1 à Caen et 1 en région parisienne. L'agence France Presse parle de messages publiés et échangés sur le réseau social TikTok, messages de colère contre les caricatures de Mahomet et glorifiant l'attaque perpétrée le 25 septembre, où vous l'avez dit, 2 personnes avaient été blessées au hachoir par un Pakistanais qui croyait attaquer les véritables locaux de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui avait déménagé après les attentats de janvier 2015 dans des bureaux dont l'adresse est tenue secrète. Le journal satirique avait republié en septembre les fameuses caricatures au moment de l'ouverture du procès des attentats de 2015. D'après les déclarations de l'assaillant, c'est ce qui avait motivé son passage à l'acte.
Laura Dulieu. Après la cyberattaque de grande envergure contre plusieurs institutions américaines, l'OTAN et la Commission européenne vérifient leur système informatique. Rien n'indique ni ne prouve pour le moment que la sécurité de son réseau a été compromise, d'après l'OTAN. L'heure est tout de même à la vigilance puisque les pirates informatiques ont récupéré un certain nombre d'informations des agences gouvernementales américaines. Cyberattaque dont les États-Unis pointent du doigt la Russie, mais Moscou dément. Le temps de l'apaisement est-il venu entre l'Europe et la Turquie ? Possible, le président turc Recep Tayyip Erdogan assure qu'il veut ouvrir une nouvelle page avec l'Union européenne. Volonté affichée hier dans un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel. Tentative en tout cas de réchauffement des relations diplomatiques sacrément refroidies depuis les récentes manœuvres turques en Méditerranée orientale, il y a quelques mois de cela. D'ailleurs, Anne Handlauer, le choix de parler à l'Allemagne n'est pas un hasard de la part du président turc.
Depuis fin novembre, Recep Tayyip Erdogan cherche l'apaisement avec l'Union européenne, du moins avec les États membres qu'il juge les mieux disposés à l'égard d'Ankara. C'est le cas de l'Allemagne et d'Angela Merkel. Il y a une dizaine de jours, la chancelière s'était opposée à ce que les dirigeants européens sanctionnent lourdement la Turquie pour ses recherches de gaz naturel dans l'est de la Méditerranée, comme l'auraient souhaité la Grèce, Chypre, mais aussi la France. Alors que de nouvelles sanctions pourraient être discutées au prochain sommet européen en mars, Recep Tayyip Erdogan dit vouloir ouvrir une nouvelle page avec l'Union européenne. Il parle de recréer un agenda positif. Le terme date en réalité de 2012, quand Ankara et Bruxelles avaient tenté sans succès de relancer des négociations d'adhésion qui étaient déjà au point mort. L'accord migratoire signé en mars 2016 avait permis de renouer le dialogue, mais la répression qui a suivi la tentative de putsch de l'été 2016 en Turquie avait enterré ces efforts. Le Parlement européen réclame depuis cet épisode la suspension des négociations d'adhésion d'Ankara. Contraint par une situation économique difficile, le président turc promet depuis quelques semaines des réformes, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Mais l'opposition n'y croit pas et les dirigeants européens attendent des actes. La libération cette semaine de l'homme d'affaires Osman Kavala, emprisonné depuis 3 ans sans condamnation, aurait été un signal fort. La justice l'a finalement maintenu en détention.
Anne Handlauer, la correspondante de France Culture à Istanbul. La météo de demain matin, les pluies s'évacueront vers l'est, encore quelques gouttes de Metz à Montpellier. Ailleurs, ce sera des éclaircies. L'après-midi, le soleil gagnera du terrain pour tout le monde ou presque. Encore quelques gouttes du côté de Marseille ou de Nice. Température, les minimales, ce sera 8 degrés pour Strasbourg. Il fera 10 à Lille, Paris et Rennes. 13 pour Tarbes. 16 degrés pour Ajaccio, la maximale. C'est la fin de ce journal réalisé ce soir par Caroline Beneteau. Moyen technique, Jean Frédérix.